Chapitre 12e. Telles étaient les réflexions qui me poursuivirent pendant les premiers jours de ma prison, que je passais ainsi dans un état d'angoisse continuelle. Mais après quelque temps, la nature excédée de détresse refusa de plier plus longtemps sous le fardeau. La pensée, qui varie sans cesse, amena une suite de réflexions totalement différentes. Je sentis mon courage revivre. La sérénité et la bonne humeur avaient été les compagnes de toute ma vie, et elles revinrent encore me visiter au fond de mon cachot. Je ne m'aperçus pas plus tôt de ce changement dans mes idées que j'entrevis la possibilité et l'avantage de regagner la tranquillité et la paix de l'âme, et que j'entendis au-dedans de moi-même une voix secrète qui me suggérait de me montrer, dans cet état d'abandon et d'infortune, au-dessus de mes persécuteurs. Heureuse innocence! La conscience de mon intégrité, cette satisfaction intérieure de moi-même, était comme un soleil bienfaisant qui perçait à travers toutes les barrières de mon cachot et qui portait dans mon cœur mille fois plus de chaleur et de joie que la splendeur réunie de la fortune et des honneurs n'en donnera jamais aux esclaves du vice. Je trouvais le secret de tenir mon esprit occupé. Je me disais, je suis enfermé pendant la moitié de la journée dans une obscurité totale et sans aucune source extérieure de dissipation. L'autre moitié, je la passe au milieu du tumulte et du fracas. Eh bien, ne puis-je pas chercher de l'amusement dans les propres ressources de mon esprit? N'est-il pas pourvu d'une grande variété de connaissances? Depuis mon enfance, tous mes moments n'ont-ils pas été employés à satisfaire une insatiable avidité de m'instruire? Quand pourrais-je mieux qu'à présent tirer parti de ces avantages? En conséquence, je me mis à exercer l'activité de mon imagination. Je m'amusais à repasser l'histoire de ma vie. Successivement, je vins à me rappeler une infinité de petites circonstances qui auraient été perdues sans cet exercice. Je retraçai à mon esprit des conversations tout entières. Je repensai d'abord aux sujets sur lesquels elles avaient roulé, puis à leurs marches, à leurs incidents, et j'allais souvent jusqu'à en retrouver les propres mots. Je demeurai sur ces idées jusqu'à ce que je fusse totalement absorbé par mes méditations. Je me les répétais jusqu'à ce que je sentisse naître la chaleur de l'enthousiasme. J'avais mes occupations différentes, les unes propres à ma solitude nocturne, dans laquelle je pouvais donner pleine carrière aux impulsions de mon âme, les autres arrangées pour le chaos de la journée, où mon objet était tout à fait sourd au tumulte qui m'environnait. Par degrés, j'en vins à quitter mon histoire et à m'amuser d'aventures imaginaires. Je me figurais toutes les positions dans lesquelles je pouvais être placé, et je me traçais la conduite à suivre dans chacune. Ainsi, je me rendis familière toutes sortes de scènes d'offense et de danger, de bienfaisance et d'oppression. Je me portais souvent, en imagination, jusqu'au moment terrible où la nature touche à sa dissolution. Dans quelques-unes de mes rêveries, mon sang bouillonnait avec toute l'impétuosité du courroux et de l'indignation. Dans d'autres, je recueillis avec constance toutes les forces de mon âme pour quelque assaut périlleux à soutenir. Je maniais les armes diverses de l'éloquence, convenablement à ces diverses situations, et dans la solitude de mon cachot, je fis plus de progrès dans l'art oratoire que je n'en aurais peut-être fait au milieu du plus vivant et du plus nombreux théâtre. J'arrivais enfin à disposer de mon temps avec autant de méthode qu'un homme dans son cabinet qui passe des mathématiques à la poésie et de la poésie à l'étude du droit des nations, dans les différentes parties de sa journée. Et je n'étais pas moins exact que lui à ne pas m'écarter du plan que je m'étais fait. Les matières de mon travail n'étaient pas non plus moins nombreuses que les siennes. À l'aide de ma seule mémoire, je parcourus dans ma prison une partie considérable d'Euclide, et je retraçais, jour par jour, les suites de plusieurs faits et incidents de l'histoire tels qu'ils sont rapportés par nos plus célèbres auteurs. Je devins aussi poète. Je me mis à décrire la magnificence et la fécondité de la nature, à exprimer les grands traits des passions et à partager avec tout le feu de l'enthousiasme les élans d'une âme généreuse, trompant ainsi le dégoût et l'ennui de ma solitude et parcourant en idées toutes les scènes du monde. Quant à ce besoin qu'éprouve toujours l'esprit humain de se retracer à lui-même ses progrès, je trouvais facilement des expédients pour y suffire, à défaut de plumes et de livres. Au milieu de ces occupations, je voyais, avec un transport de joie et de triomphe, jusqu'à quel point l'homme est indépendant des faveurs ou des rigueurs capricieuses de la fortune. J'étais hors de la portée de ses coups, car elle ne pouvait me mettre plus bas. Aux yeux de tout le monde, je semble être dans un état de détresse et de misère, tandis que dans la réalité, je n'éprouvais pas un besoin. Ma nourriture était grossière, mais je jouissais d'une bonne santé. Mon cachot était infect, mais mes sens y étaient accoutumés. Si l'exercice en plein air m'était interdit, je savais en prendre dans mon cachot, de manière même à provoquer la sueur. Je n'avais aucun moyen de délivrer ma personne d'une compagnie qui ne pouvait inspirer que de l'aversion et du dégoût, mais j'eus porté bientôt jusqu'à la perfection l'art d'y soustraire mes pensées, en sorte que je ne voyais ni n'entendais les gens qui m'entouraient que précisément aussi peu que je le voulais. Tel est pourtant l'homme considéré en lui-même, tant la nature est simple, tant ses besoins sont peu nombreux, que l'homme artificiel de la société est différent. De vastes palais s'élèvent pour le recevoir. 1000 voitures différentes sont imaginées pour ses promenades et ses exercices. Des provinces entières sont rançonnées pour contenter son appétit, et tout le globe est mis à contribution pour lui fournir ses vêtements et ses meubles. Que de dépenses pour payer des chaînes. Sa santé et son repos se trouvent dans la dépendance d'une foule d'accidents. Son corps et son âme sont à la merci de quiconque promettra de satisfaire ses insatiables et impérieux besoins. Au désavantage de ma situation présente se joignait encore l'affreuse perspective d'une mort ignominieuse. Eh bien, tout homme est fait pour mourir. Personne ne sait l'heure où la mort viendra le visiter. À coup sûr, il n'est pas plus fâcheux d'avoir affronté cet ennemi formidable quand on est en pleine santé et pourvu de tous les moyens de force et de courage que d'essuyer ses attaques au moment où nous sommes déjà à moitié défaits par la maladie et les souffrances. Au moins, étais-je bien décidé à jouir pleinement des jours que j'avais encore à vivre, et c'est cette faculté qui est particulière à l'homme dont la santé se prolonge jusqu'au dernier moment de son existence. Pourquoi m'abandonner à d'inutiles regrets? Il n'y avait pas au-dedans de moi un sentiment de fierté, ou plutôt d'indépendance et de justice, qui ne cria à mon persécuteur « Tu peux m'ôter l'existence, mais tu ne saurais troubler la paix de mon âme ».